Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcan, les grandes entrevues de la semaine.
Ben vous le savez, elle nous présente son livre qui sera en librairie le 24 avril prochain. Entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer. Sophie Grégoire Trudeau est avec nous. Tout simplement Sophie, c'est ce qu'elle nous dit depuis quelques jours.
Absolument, mais on se suit nous autres. On est ensemble, tout le monde en parle, puis on se voit ce matin.
Exact. Ben, il y a vraiment, j'ai passé à travers le bouquin, il y a beaucoup de trucs personnels. Il y a des conseils, vous avez fait appel à des experts dans différents domaines, puis ça amène les gens à réfléchir sur, évidemment, leur propre vie. Mais moi, je veux discuter avec vous ce matin d'enjeux plus, je veux dire, globaux de société concernant la santé mentale. Parce que c'est vrai qu'on en parle plus qu'avant, mais en même temps, il y a beaucoup de gens qui vivent des situations de détresse. Et je veux vous entendre là-dessus, sur des parents, puis des exemples. Je vais prendre un cas de type, là, puis après ça, je vous laisse aller. De gens qui ont, par exemple, un fils qui, à 15 ans, a commencé à consommer de la drogue, fait des psychoses, entre, quitte, va en hébergement, en désintox, hospitalisé, vit en appartement, retourne chez ses parents, atteint l'âge de 30 ans, et les parents ne savent plus quoi faire. Qu'est-ce que vous dites devant ces cas-là qui sont malheureusement très nombreux?
Mais premièrement, qu'ils sont jamais seuls. Qu'il y a des parents qui passent à travers les mêmes types d'événements tragiques dans leur famille, que ça arrive dans les, entre guillemets, bonnes familles ou dans les familles qui ont des troubles depuis longtemps, qu'il y a personne qui est invincible à ça et qu'il faut arrêter de se blâmer. Il faut faire attention parce que les parents, surtout, je pense, les mamans, là, on a beaucoup de culpabilité par rapport à tout ça. Je pense que le plus important en santé mentale, puis c'est... Je le dis souvent, la santé mentale, c'est pas juste l'absence de maladie mentale,
non,
tout le tissu de notre vie, avec qui on se tient, ce vers quoi on porte notre attention, comment on se traite quand personne nous regarde, quel genre de conversation intérieure on a avec nous-mêmes, comment on se connaît aussi, à quel point est-ce qu'on se connaît. On vit dans une société qui nous récompense le reni de soi-même constamment. Donc, c'est très difficile de vraiment comprendre nos traumatismes. Puis tu sais, les traumatismes, je veux pas faire peur à personne en ce moment là. Tout le monde en a. Des petits T de traumatismes, donc des petits stress chroniques qui se répètent au cours de notre vie, ou des grands T traumatismes où il y a beaucoup de mal qui nous est fait. Là, les parents qui souffrent en ce moment, puis les jeunes qui souffrent, moi, une des plus grandes leçons que j'ai apprises au cours des 20 ans là, de fréquentation, puis de ma curiosité à moi, d'essayer de mieux comprendre la santé mentale de l'être humain, parce que j'ai vraiment l'impression qu'un cerveau puis une pensée qui n'est pas examinée, c'est une vie qui n'est pas examinée. Donc, on est appelé à être beaucoup plus responsable de notre processus d'individualisation. C'est pas facile. On ne nous l'enseigne pas. Alors, c'est pas évident à juste développer comme ça du jour au lendemain. Par contre, les maladies mentales se développent souvent dès un très jeune âge. Puis quand tu regardes la recherche, c'est ça que ça nous prouve. Il y a des signes. Le plus important en tant que parent, c'est aussi de regarder ses propres traumatismes non résolus, nos comportements, comment on se traite dans nos couples, dans nos familles, dans nos maisons, quel genre de répercussions ça a sur nos enfants, d'avoir des conversations ouvertes au lieu des silences, même avec des silences malaisants. Des fois, les silences malaisants puis ou les conversations qui choquent puis qui provoquent des émotions, ben c'est important. Ce dont je me rends compte, Paul, c'est que on n'enseigne pas aux humains comment s'auto-réguler, comment mieux comprendre leurs émotions, puis comment développer un leadership émotionnel.
Il y a une psychiatre qui m'a dit un jour, faudrait donner des cours à l'école sur comment gérer ses frustrations pour pas que ça dégénère en des conflits qui sont inexplicables et qui sont hors proportion.
Je pourrais pas être plus d'accord. Puis tu sais, il y a un vieux proverbe Cheyenne qui dit que à la fin, on va sauver ce qu'on aime et on va aimer ce qu'on comprend et on va comprendre ce qui nous a été instruit et appris. Mais est-ce qu'on nous apprend à nous connaître? Ça vient pas tout seul, ça, là. Puis c'est difficile, parce que ça fait mal à regarder sa souffrance. Donc, c'est excessivement important d'encourager nos enfants à développer un leadership émotionnel. Mais ça veut dire quoi, ça, un leadership émotionnel? Ça veut dire être capable de prendre une respiration quand on n'a pas envie de respirer. Ça veut dire, quand on est dans un conflit puis on veut parler puis crier, ça veut dire être capable de calmer sa respiration puis de calmer dans sa présence pour pouvoir écouter davantage. Ça veut dire avoir une discussion qu'on n'a pas envie d'avoir avec quelqu'un parce qu'on sait que c'est la meilleure chose à faire. Ça veut dire, c'est très difficile de faire ça si on ne l'a pas appris.
Vous avez sans doute remarqué le nombre de cas de féminicide, de femmes qui ont été assassinées, dans d'autres cas blessées par un conjoint ou un ex-conjoint. Vous avez dit hier, justement, tout le monde en parle, on peut pas toujours résumer une vie de couple par un échec ou un succès. C'est pas parce qu'on se sépare que c'est un échec, etc. Mais visiblement, pour beaucoup de personnes, c'est un échec et même plus que ça. Comment vous expliquez qu'en 2024, il y a tant de gars qui sont pas capables d'assumer, d'accepter une séparation, puis sont pas capables de vivre ça, au point de dire, là, je passe à l'acte, et violemment.
Quand quelqu'un est rendu là, c'est qu'il y a une détresse psychologique profonde, et il y a un manque de connexion avec ses propres émotions, et un manque total d'être capable de réguler ses propres émotions. Rosemarie Charest, à qui je parle dans mon livre, dit « Les êtres humains les plus malheureux qu'elle a rencontré au cours de ses 30 ans, 40 ans de carrière, de voir des clients, sont ceux qui ne peuvent pas faire confiance à l'autre. OK? Quand tu ne deals pas avec tes traumatismes, puis ce qui s'est passé de toi dans ta vie, puis à l'intérieur de ton être à toi, tu développes une espèce tu développes un stress chronique. Tu sais, comme j'explique dans le livre, tous les êtres humains sur la planète ont un système nerveux. Il y a une branche sympathique d'alerte et de fuite. Si tu traverses la rue puis il y a un autobus, tu vas t'arrêter parce que ton système nerveux te dit arrête-toi, sinon tu meurs. C'est pour ta survie. Mm-hmm. Et ta branche parasympathique de repos et de digestion. Tous les êtres humains dans une journée, on danse entre ces deux grandes veines-là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on est capable en tant qu'être humain, de manière que c'est même pas si difficile que ça si on l'apprend jeune, d'influencer et de remettre notre système nerveux dans ce qu'on appelle l'homéostatique, dans un centre mieux balancé. Donc, ces hommes-là qui sont en détresse psychologique profonde et qui font mal aux femmes, et qui est tout à fait inacceptable, ça me donne mal au cœur, puis moi comme féministe, puis comme personne qui essaie de protéger le droit des femmes depuis ma tendre jeunesse, je vois leur détresse, je vois leur souffrance qui n'a jamais été adressée.
Mais est-ce qu'on n'est pas en train de régresser? Ce que je veux dire par là, c'est que tu parlais des droits des femmes, puis des combats qui ont été menés, puis des droits que vous êtes allés chercher, puis qu'on vous a aidé à aller chercher
bien
aussi.
Sûr.
Mais il y a quelque chose qui me frappe depuis quelque temps. C'est d'abord, là, je viens de parler des féminicides, mais en même temps, on a remarqué que beaucoup d'attaques gratuites sur la rue, ce sont les femmes qui sont visées. Par des gens qui sont perturbés, on va dire. Où il y a encore de plus en plus de groupes qui, sur les réseaux sociaux, expriment leur haine, s'ennuient du bon vieux temps, puis voudraient que la femme retourne un rôle traditionnel. Pourquoi ça revient?
Je pense qu'en ce moment, les gens sont dépassés de par, un, le rythme de vie dans lequel on vit. C'est trop rapide. Le cerveau humain n'est pas fait pour vivre à ce rythme-là. Donc, on se sent dépassé, puis même que notre corps se sent dépassé, les gens sont épuisés, on n'est plus capable d'y arriver. L'insomnie puis les troubles de sommeil, c'est une épidémie en soi en ce moment, et d'ailleurs, beaucoup de femmes en souffrent. Et quand la sécurité de la femme est mise en jeu, ça aussi, ça crée un stress chronique. Et tu sais, la sécurité, c'est pas juste la présence d'une grosse menace dans la vie de quelqu'un. C'est le manque de connexion et de présence nourrissante. Alors là, si tu t'en vas voir dans un couple où l'homme a des troubles de santé émotionnelle et de santé mentale et qu'il n'y a même pas de présence de connexion, là, tu as une boule de danger. Donc, c'est sûr que là, il y a tellement de groupes qui se dévouent à aider les femmes qui sont victimes de violences conjugales. Moi, j'ai travaillé avec le bouclier d'Athéna qui dessert la population de Montréal en 14 différentes langues parce qu'il n'y a pas personne qui est invincible à la violence conjugale, puis ça se passe dans n'importe quel genre de famille et de communauté culturelle, etc. Donc, si on est assez courageux de regarder la réalité de plein de fouet, c'est une grande responsabilité. Ça fait mal parce qu'on voit que dans notre société, les systèmes nerveux sont en état d'alerte puis les gens sont dépassés. Est-ce que c'est impossible à renverser? Non, je ne pense pas.
Mais la haine, vous l'avez connue comme conjointe du premier ministre, là, de voir cette dégradation, disons, de la façon d'exprimer son mécontentement face à des décisions gouvernementales.
Donc, David Livingstone Smith, l'expert en déshumanisation, qui passe en entrevue des gens qui ont commis des génocides et des atrocités, qui est dans mon livre avec qui je m'entretiens, dit « La haine, c'est vraiment un désir profond et non assouvi de connexion. Les gens qui propagent la haine ont besoin d'être compris, d'être entendus et d'être connectés à l'autre. Ils perdent confiance en l'autre. » Ça revient à ce que Rosemarie Charest dit. Les gens qui peuvent pas faire confiance en l'autre ou au monde, ou qui se sentent complètement isolés et déshumanisés et oubliés par le monde, sont en état d'alerte constant. Alors, ce que j'ai appris, c'est que c'est moins personnel qu'on puisse le penser. Les gens ont besoin de trouver un bouc émissaire. Malheureusement, ça tombe sur une personne. Ce n'est pas une décision sage que de blâmer une personne dans une vie, peu importe.
Mais
si
les messages haineux, comment vous étiez capable de gérer ça?
Oh, j'en prends perspective. Moi, honnêtement, Paul, là, ma vie, là, quand je m'en vais dans le monde, quand je m'en vais faire mes emplettes ou que j'amène les enfants à l'école à vélo, ou que peu importe, moi, j'ai pas cette haine-là autour de moi. Moi, je reçois de l'amour et du support, puis ça me renverse le cœur parce que je donne comme ça à l'univers. Mais en politique, c'est beaucoup plus cruel. Et les gens s'en permettent beaucoup. Et les réseaux sociaux, maintenant, c'est un free highway, là, c'est une autoroute libre pour attaquer les gens sans prendre aucune responsabilité. Donc, dans ce fléau-là de santé mentale et de crise mentale, je dirais, émotionnelle, les gens prennent de moins en moins responsabilité pour leurs propres émotions. Ça, c'est dangereux. C'est pour ça que le travail est important.
Avez-vous envie de faire de la vraie politique comme candidate?
Non. C'est clair?
Oui, c'est très clair, mais parce qu'on a vu, Michelle Obama est toujours sur la liste des candidates potentiels.
Mais elle dit non à chaque fois.
Exact. Hillary Clinton l'a fait, par exemple. Vous, c'est non, pourquoi?
Ben parce que c'est pas mon expertise, c'est pas mon chemin de vie professionnel. Le mien est clair pour moi, puis il me permet de donner à ma juste mesure. Mais je peux vous dire, par exemple, que ma perception des gens qui sont au service public et qui font des sacrifices au quotidien pour servir l'autre, je trouve ça, je peux pas croire ce que j'ai vu. Des gens qui voient plus leur famille, qui sont fatigués 24/7, qui voyagent constamment, qui reviennent au bureau, qui travaillent des heures de fou pour rendre le monde meilleur, puis se font cracher dessus parce que c'est jamais assez. Et les femmes se font boulier et se font intimider sur les réseaux sociaux de manière inconcevable. Je l'ai vu, je l'ai entendu, puis j'en suis témoin. Puis moi aussi, des fois, j'ai reçu des commentaires désobligeants. Mais je pense qu'il faut avoir la maturité, un, de se détacher de ce qu'on voit dans les médias parce que ça ne correspond pas à la vraie vie. Ça, je peux vous le confirmer. Puis deux, c'est important de devoir prendre la critique quand on est un être humain. C'est important parce que ça peut nous faire devenir une meilleure personne. Mais il faut avoir le discernement de savoir, ça vient d'où cette critique-là? Est-ce que ces gens-là sont en état d'alerte puis sont complètement anxieux puis dépassés par la vie? Parce qu'ils pointent du doigt une personne, mais si on rentre dans la complexité du problème, c'est beaucoup plus large que ça.
Beaucoup de courriels après votre passage, justement, tout le monde en parle hier, et il y a une phrase que vous avez dite, là, je vais la résumer, puis vous pourriez me la confirmer, pardon. Quand vous avez parlé de liberté dans le couple, en disant, ça a l'air banal, mais ça veut dire quelque chose, de reconnaître que l'autre est peut-être rendu ailleurs, moi je suis rendu ailleurs, puis de quand même être capable d'être des adultes et de se parler, puis de reconnaître qu'il faut laisser l'espace à l'autre. C'est un peu ça que vous avez dit?
Oui, bien sûr.
Il y a beaucoup de gens qui ont été touchés par ça, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'ils vivent ça dans leur couple, puis que s'ils pouvaient l'appliquer, peut-être que le couple serait en processus de séparation, mais que la vie serait meilleure pour l'un et pour l'autre.
Ça me touche énormément, un, que vous me partagez ce commentaire-là, et je ressens un petit peu le cœur des gens à travers ça. On est tous, la plupart d'entre nous, dans des types de relations, que ce soit amicales ou romantiques. Et c'est difficile à naviguer. Parce que les plus grands conflits dans les relations sont basés sur l'objection à la différence de l'autre. Nous autres, on voit la vie d'une certaine manière, puis on pense que les autres la voient de la même manière. C'est pas vrai. Dans mon livre, je parle du processus d'attachement à l'enfance. Comment la personne qui a pris soin de nous quand on était petit, par le toucher, par la présence, par le regard, par le jeu, par l'humour, qui a validé un peu notre sens d'être un être humain légitime puis correct dans nos émotions, puis qui nous a fait le miroir de qui on est dans le respect. Ça, là, ça laisse des traces pour toute une vie, dépendamment si ça a été bien fait, moins bien fait, avec moins de présence, etc. Donc, dans un couple, l'enfant en nous est toujours actif. Et si on a peur et on est insécure, ce qu'on est tous, parce qu'on veut pas être abandonné, parce qu'on veut pas être rejeté, parce qu'on veut être aimé pour qui on est, on a des conflits. Puis, on pense que notre partenaire voit la vie comme nous, voit notre couple comme nous, donc on s'attend à ce que ce soit, tu sais, quand même assez facile à régler. Là, on vit dans une société où, quand vous venez de le dire, mais si ça va pas bien, on va se séparer.
Oui, mais ça prend du courage de dire on est peut-être plus à la même place qu'on était il y a 10 ans ou 15 ans.
Mais c'est correct. Puis, by the way, là, ça veut pas dire qu'on est obligé de se séparer. Chacun a sa formule. Peut-être que quelqu'un pourrait dire, hey, on prend-tu un an ou deux, là, on prend de la perspective, mon amour, je t'aime, mais là, moi, j'ai besoin d'espace. Ça marche pas. Est-ce qu'on est assez sécure pour se laisser cet espace-là? On va-tu penser, ben là, il va-tu aller avec quelqu'un d'autre? Est-ce que je vais le perdre pour toujours? Mmh. On a peur de prendre ces risques-là. Mais ces risques-là sont matures et ils laissent l'espace au changement. Puis quand on n'a pas peur du changement, on évolue en tant que personne.
Vous devez quitter, j'ai une dernière question.
Non, je veux pas.
Ben non, c'est pas moi qui décide, c'est votre gang. Mais vous avez rencontré Donald Trump. Son procès s'ouvre aujourd'hui. Vous connaissez Melania, vous l'avez croisée.
Oui, oui.
Et puis?
J'ai pas grand-chose à dire autre que je vois l'état d'alerte intérieure par moment. Souvent, quand je regarde des hommes politiques, j'essaie de voir un peu l'enfant traumatisé ou non en eux.
Et
je me souviendrai toujours d'un commentaire qu'il m'avait partagé parce que c'est une maman dédiée. C'est une mère présente et des fois, je pense qu'elle m'avait dit à un moment donné que c'était difficile d'exprimer leurs émotions. Tu sais, elle a été élevée en Europe de l'Est et c'est difficile d'exprimer certaines des émotions. Mais ça m'a fait comprendre un peu que quand on est pris dans nos émotions, c'est difficile d'être son propre leader émotionnel et de faire la même chose pour d'autres. Puis ça m'a fait comprendre plusieurs situations avec plus de perspectives.
Mais lui, comment il était avec vous?
Il était correct avec moi.
Froid correct. Ou...
Non, pas du tout.
Non?
Non, pas du tout. Non. Gentil, mais c'est ce que c'est.
Pas trop mon oncle.
Non, ok. Non. Tu sais quoi? Non. Je pense pas qu'il aurait pris cette chance-là. Non.
Merci beaucoup d'être venu ce matin.
Merci,
Sophie
Paul.
Grégoire Trudeau, entre nous, mieux se connaître, mieux s'aimer.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
J'ai reçu un courriel en fin de semaine et j'ai été complètement renversé. C'est l'histoire tellement triste d'une jeune fille qui part en vacances avec son père à Cuba. Malheureusement, son père décède. Il faut rapatrier le corps au Canada. Il y a eu erreur sur la personne et son père n'est pas revenu. On ne sait d'ailleurs pas où il se trouve, la dépouille de son père. Et c'est le corps d'un citoyen russe qui a été envoyé ici au Canada. Je vous présente nos deux invités. Myriam Jarjour, qui est avec nous, qui est avec son père à Cuba quand il est décédé. Bonjour, Myriam.
Bonjour.
Et également, Anas Francis, qui est un ami de la famille. Bonjour, M. Francis.
Bonjour, cher.
Myriam, je commence avec vous. Racontez-nous un peu les vacances à Cuba. Vous êtes partie seule avec votre père?
Non, on était 12 personnes.
12 personnes.
Oui, avec mes amis, mon cousin et sa femme, ma mère, mon père et mon frère aussi.
OK. Et vous étiez là en vacances pour vous amuser, pour vous distraire?
Oui, la deuxième journée, on est parti le 20, le 22. On est en train de nager, moi et mon père. Il a eu une crise cardiaque dans la mer. C'est que j'ai commencé de crier. Et tout le monde qui a commencé de m'aider pour sortir de la plage, pour essayer de faire tout ce
le réanimer
possible,
le plus possible.
Oui, mais le bizarre, dans l'hôtel, il n'y a pas de médecin. On a resté comme 45 minutes à une heure pour une médecin qui passe, nous voir qu'est-ce qui se passe avec mon père et tout ça. Et après, ils ont laissé le corps sur le sable de 3h30 jusqu'à minuit.
3h30 à minuit.
Oui. Il fait chaud là-bas, imagine.
Il y avait personne pour venir s'occuper du corps pour
on attend, on attend toujours comme l'ambulance qui passe le chercher pour amener au Havana parce que là-bas il y a le frigo pour les toutes les.
Et donc de 15h jusqu'à minuit, votre père est resté là sur la plage.
Ouais. Ouais.
C'est incroyable.
Aucun policier.
Rien.
Ils sont arrivés à minuit avec un auto normal.
Les policiers, non. Il était là-bas après 2h, 3h. Ils ont juste ramassé le passeport. Et ils ont commencé d'écrire qu'est-ce qui se passe. Et après, ils ont disparu.
Ils ont mis une couverture, puis c'est tout?
Oui. Ouais.
Et vous, là, vous êtes en état de choc, là, j'imagine. C'est votre père vient de décéder. Sûr. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous parlez avec l'hôtel? Est-ce qu'il y a quelqu'un?
J'ai parlé avec l'hôtel. J'ai parlé avec les consulats canadiens. Il m'a dit, vous allez venir lundi pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, tout ça. Lundi, j'ai présenté avec mon frère au consulat. Il m'a dit que vous devez retourner au Canada. Il y a un numéro, vous devez l'appeler. Vous devez payer 10 000 $ pour transporter le corps.
Donc, on vous dit, vous pouvez même pas rester sur place. Il faut revenir ici?
Ouais.
Pour payer.
Pour commencer la procédure, on doit payer.
Donc, vous laissez la dépouille de votre père à Cuba, vous rentrez au Canada, tout ça pour payer, commencer les paiements, prendre contact avec cette compagnie qui vous est référée par le consulat canadien.
On a demandé si quelqu'un là-bas qui peut parler avec le gestion de consulat pour le paiement et nous, on reste au Cuba. Il m'a dit que seulement moi que je peux parler parce que mon nom dans la demande de passeport, c'est mon nom, le nom urgent. Fait que seulement moi que je peux parler. Fait que j'étais obligée de retourner au Canada pour faire les appels, pour faire le paiement.
Quand vous avez fait les appels, qu'est-ce qu'on vous a dit? Ça s'est passé comment?
Personne qui a répondu. Je dois laisser un message vocal, imagine. Comme toute la journée, je reste, j'appelle et je laisse un message vocal et personne qui a répondu. Et après, comme j'essaie de faire les appels, mes amis, à la fin, on a envoyé un email pour le ministère d'Affaires étrangères. Et là, le gestion de cas, il m'a envoyé un email avec les formulaires que je dois remplir pour payer les 10 000. Je dois mettre mon carte de crédit et tout ça, mon nom et le nom de maison de funérailles qui va arriver au aéroport pour ramasser le...
Ça veut dire que la famille a payé le montant, le 10 000 $
Plus 15 000 au complexe funéraire.
C'est ça.
C'est 25 000 $ au total.
Ouais. Payé, il n'y a pas de corps. Elle n'a pas d'aide, personne ne le répond. Elle a essayé d'appeler la députée plusieurs fois. Finalement, elle a reçu à le parler. Mais c'est tout déprimé. Il n'y a pas d'action. De l'argent payé. Un Russe arrivé, ce qui est épouvantable.
Ça, on va y venir tout de suite pour que les gens comprennent. Mais je rappelle, là, vous êtes en vacances avec votre père, des amis, des membres de la famille. Votre père décède, vous nagez avec lui, le corps est laissé sur la plage, personne s'en occupe, il n'y a pas de médecin, il n'y a personne qui récupère le corps. Et là, on vous dit de revenir ici, de prendre faire les démarches, payer le montant d'argent, donc le 10 000 plus le 15 000. Finalement, il y a une dépouille qui arrive ici au Canada. C'est pas votre père.
Non. C'est pas mon père, c'est une personne comme, il est 20 ans
plus jeune
que mon père. Il a des cheveux, mon père il a pas de cheveux. Il a des tatouages, mon père il a pas de tatouages.
Et ça, vous l'avez constaté de quelle façon? Vous avez quoi, identifié le corps? Comment ça s'est passé? Oui.
Elle a demandé d'ouvrir le cercueil, elle puis sa mère. Puis ils ont regardé, ben, le nom de son père est sur le cercueil. Certificat de décès produit au nom de son père. Et photocopie de son passeport. Puis mauvaise personne. Je crains pour sa mère plus.
Non, mais c'est certain.
Ça va pas bien à la maison.
Ça veut dire qu'on a un corps ici qui est un Russe, un citoyen russe. Et votre père, on n'a aucune idée où il se trouve. La dépouille de votre père, on ne sait pas.
On ne sait pas où, jusqu'à là.
Mais parler de ce citoyen russe, il a été récupéré, entre guillemets. Là.
Oui, il a été ce que la députée a informé Myriam, il a été récupéré par le consulat russe déjà. Fait qu'il n'a même pas resté 24 heures au Canada. Là.
Il est reparti. Le corps est reparti.
Il a été récupéré avec professionnalisme, si j'imagine, reparti en Russie. Mais le corps de son père, maintenant, est où? En Russie? Il a été échangé? son passeport est avec lui? Est-ce que son passeport est tracé? C'est quoi la solution? C'est une tragédie.
C'est horrible. D'abord, la mort de votre père, c'est horrible, mais tout ça, là, de plonger la famille dans une espèce de scénario qui n'a aucun sens, là, qui manque de respect, oui?
Et je veux juste mentionner quelque chose. Oui. La région, le bureau Région 5, gestion des cas consulaires en Ottawa, ils ont fait parvenir premièrement un certificat
de décès ou?
Non, pour brûler.
Incinérer
le corps, puis ramener
les cendres.
Les cendres. Puis c'est pas ça qu'elle a payé pour. C'était moins cher, incinération. C'était 7 000 $, elle a payé 10 000 pour un corps. Puis là, elle a renvoyé pour dire, non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai payé pour. Moi, je veux mon père. Et pas...
Pas des cendres.
Et pas des cendres. Puis là, ils ont corrigé le certificat. Donc...
Mais là, vous ne savez pas si votre père est incinéré. Vous ne savez pas si, comme vous dites, il est rendu en Russie, puis on ne sait pas trop. Et est-ce que vous avez, devant cet amoncellement de questions, toutes ces questions-là, avez-vous des réponses? Vous me dites que ça commence un peu du député ou de la députée fédérale. Là.
Oui.
Mais les services consulaires, là, le gouvernement canadien... là.
Le consulat là-bas au Cuba, le consulat canadien, il ne fait rien. Il n'a pas nous aidé. Il m'a dit, moi, je ne peux rien faire. Vous devez retourner au Canada, vous devez appeler et payer.
Mais comment le consulat canadien peut répondre une telle chose? Par définition, un consulat, c'est pour aider les Canadiens qui sont dans la difficulté. C'est leur job de faire ça. Puis ils ont dit non.
Oui, ils ont dit non. Même là, quand j'ai parlé avec
la députée.
Députée, ils m'ont dit que oui, c'est pas le responsabilité de consulat, c'est pas le job de consulat, c'est le compagnie qui transfère le corps.
Oui, mais cette compagnie-là, vous est référée par le consulat.
C'est ça.
Elle était engagée par le consulat, en fait. Elle a pas payé la compagnie, elle a payé le gouvernement. Moi, je vous commande, je vous paye pour un produit dans le monde logique.
Oui.
Mais je veux le produit que j'ai payé 10 000 pour. Je m'en fous que... Tu l'as donné à une compagnie X, Y.
C'est à vous que je l'ai donné. C'est à vous avec qui j'ai fait l'entente.
Comment ça vous avez rentré un Russe sans vérifier? Mettons qu'il y avait d'autres choses dans le cercueil. Vous vérifiez pas qu'est-ce qu'il y a dedans? Vous comparez pas les photos?
Je sais pas quoi vous dire, mais on va faire quelques téléphones parce que c'est inacceptable. C'est un deuil en plus. Là. C'est pas juste...
C'est un deuil de famille, tu sais. Puis encore une fois, si son père n'est pas retrouvé, il arrive quoi? Il arrive quoi à sa mère, premièrement? Comme j'ai dit, là, elle était déjà, elle pèse dans le monde idéal à 80 livres. Là. Puis ça fait un mois qu'elle ne mange pas, elle ne dort pas, sa mère. Puis c'est normal, je me mets à sa place. T'sais. Le prêtre vient le voir, mais ça change quoi? Puis c'est tout des... Encore une fois...
Faut qu'elle fasse son deuil, ouais. Comme on dit.
Puis là, on répète... C'est les députés qui ont pris action il y a deux jours. C'est juste des actions. On va faire. Mais elle a pas de contact. Là. Elle a aucun numéro. Elle peut même pas faire suivi aux députés même. Donc, elle cherche des réponses. Elle est prête à aller à Havana aussi. Mais elle a besoin d'aide. Elle sait pas à qui s'adresser. Si le consulat l'aide pas, est-ce que l'ambassade va l'aider? Non.
Merci d'être venu ce matin. On va garder le lien et on va essayer de vous donner un coup de pouce dans la mesure qu'on peut le faire. Merci beaucoup.
Merci.
Bonne chance à vous. Myriam Jarjour, qui est la fille de Farah Alaa Jarjour, qui est décédée à Cuba. Et Anas Francis, qui est un ami de la famille. Donc, monsieur est décédé. La dépouille de monsieur est introuvable. Et le gouvernement canadien ne fait rien pour aider à retrouver le corps et soulager la famille et permettre à cette famille de faire leur deuil. Vous imaginez, on envoie un citoyen russe, mélange de corps, mélange de papier, et les Russes sont meilleurs que les Canadiens pour s'occuper des dépouilles de leurs concitoyens.
L'essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Céline Dion, notre Céline.
La nôtre, là.
Elle nous appartient.
Oui.
Elle nous appartient. Donc, elle donne une entrevue au magazine français, la version française de Vogue.
Avec également des photos magnifiques. Et c'est en fait la première fois depuis des années qu'on a droit à une entrevue avec Céline Dion. Elle nous donne de ses nouvelles. Elle semble bien se porter. Et il a été celui qui a pu parler à Céline Dion dans le magazine Vogue France. Il est journaliste indépendant et aussi écrivain. Clovis Gou, bonjour.
Bonjour à tous.
Comment est arrivé cet entretien unique avec Céline Dion? Parce que c'est pas tous les jours qu'on reçoit un appel pour dire « Bon, ben, comme affectation, vous avez une entrevue avec Céline ».
Eh ben, écoutez, je pense que c'est le désir de Céline Dion, en fait, de parler avec son public francophone. Et je pense que c'est son équipe et elle-même hein, qui ont démarché Vogue, en fait, pour réaliser cette interview. Parce qu'elle voulait communiquer, je pense, sur sa santé et puis ne plus laisser planer de mystère un peu sur sa condition. Et ensuite, l'équipe de Vogue a fait un brainstorm et puis mon nom est sorti du chapeau. Hein. Ça s'est passé comme ça. Hein.
Et vous avez fait l'entrevue par visioconférence. Hein?
Oui, exactement, ouais.
Et elle était comment?
Il y a un mois de ça, en fait. Ça devait être un mois pile. J'ai fait l'interview. Il a été déporté plusieurs fois. Et puis finalement, moi, j'étais content parce qu'elle l'a faite chez elle à Las Vegas. Puis bon, moi, j'étais à Paris. Et pour vous dire comment elle était, moi, j'étais extrêmement surpris de son naturel, parce que j'avais l'impression que c'était une Céline Dion. On n'est pas souvent amené à être face à une star internationale qui est aussi franche, aussi naturelle. Ce que de dire, elle était un peu au saut du lit, les cheveux attachés, avec un t-shirt un peu lâche, c'est pas maquillé. Enfin, vraiment, c'était une bonne surprise.
Et vous parlez... Oui, allez-y.
Pardon?
Non,
allez-y.
Mais parce que vous parlez aussi, évidemment, de la maladie de la personne raide dont elle souffre depuis plusieurs années, qui l'a évidemment mise de côté. Elle ne peut plus monter sur scène, ne peut plus chanter. Vous avez abordé la question avec elle, franchement, sur comment elle est, comment elle se porte?
Bah oui, moi, elle a l'air de se porter bien, mais c'est un combat, ce qu'elle explique dans l'interview, hein, c'est un combat quotidien et c'est une maladie dont on ne guérit pas. Donc elle va vivre avec ça, le combattre et elle fait tout pour remonter sur scène, mais comme elle le dit, elle peut pas nous dire quand elle va revenir sur scène parce que elle le sait pas elle-même.
Est-ce que vous croyez qu'elle pourrait nous présenter bientôt de nouvelles chansons ou c'est encore trop vite?
Ah ben ça, j'en sais rien. Hein. Malheureusement, je ne lui ai pas posé la question.
Ah.
Ce qui est une erreur de ma part. Mais parce que je voulais aborder d'autres sujets. Enfin, je voulais aborder sa carrière, sa relation avec la célébrité, sa relation avec la mode, parce que c'est un journal de mode, etc. Mais bon, bah, j'espère bien sûr qu'il y aura des nouvelles chansons. Ça, je pense que la scène, c'est peut-être un peu compliqué, mais chanter, je pense qu'elle est en pleine forme. Parce que moi, certaines des questions que je lui ai posées, elle m'a répondu en chantant. Donc, ce qui ne transparaît pas dans l'interview, mais c'était génial. Hein. Moi, j'ai eu un show de Céline Dion rien que pour moi. Donc voilà, je suis très heureux.
Mais on peut le voir un peu dans la vidéo également qui a été faite par le magazine Vogue, justement, où elle raconte ses looks des dernières années. Et dernière question, nous, évidemment, Céline, on la connaît, c'est notre petite Céline de Charlemagne. Mais vous, en France, c'est aussi un personnage qui intéresse énormément les Français. Qu'est-ce que vous aimez tant de Céline Dion?
Alors, c'est une bonne question parce que on n'a pas la même relation, je pense, les Français et les Québécois et les Canadiens avec Céline Dion. C'est qu'en France, même les gens qui n'aiment pas ses chansons l'adorent en tant que personnage. Enfin, c'est le personnage avant tout qui est tellement sincère, tellement attendrissant et puis tellement talentueux également. Qu'on connaît avant tout les chansons qu'elle a fait avec Jean-Jacques Goldman, il y a cette période des années 90, moins sa carrière, ses chansons américaines. Donc, c'est vraiment son personnage. Et puis, il y a tout le temps des documentaires en permanence sur elle à la télé française. Donc, on connaît les moindres faits de sa vie, en fait.
Alors, on pourra lire votre entretien dans le Vogue France. C'est maintenant en ligne, mais ce sera disponible en kiosque ici à compter de demain. Clovis Gou, journaliste indépendant et écrivain, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon, bonne journée.
Ben, merci à vous.
Merci, au revoir. Alors, un petit peu de Céline, as-tu un peu de musique, Rick? Bon. I was waiting for so long. Elle va faire de nouvelles chansons, je suis convaincu.
Ben, je le crois parce que, comme le disait Clovis Gou, lors de son entretien, elle chante, mais elle a chanté aussi, je vais vous proposer cet extrait quand même, de Céline Dion qui chante en même temps.
Let's add one more thing to all that. I got my own imperfections.
C'est vrai qu'elle chante tout le temps.
Ben, elle peut toujours chanter, mais de tout, hein, c'est une improvisation. C'est notre Céline.
Je me souviens d'une conférence de presse avec, je pense, elle présentait des sacs.
Oui.
Chez Browns.
Oui, chez Browns, oui.
C'est, hein, elle chantait.
C'est elle la bosse, oui, puis elle chantait à chaque fois.
Oui, un petit peu.
De tout. L'amour existe encore.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Essentiel de Paul Arcand, les grandes entrevues de la semaine.
Fred, tu t'es penché sur un sujet qui divise les Québécois, c'est-à-dire les enfants au restaurant.
En fin de semaine, il y a une vidéo qui s'est beaucoup promenée. Des dizaines de milliers de personnes qui ont visionné cette publication, qui est venue chercher vraiment beaucoup de parents. C'est une mère de famille, Marie Germain, qui s'est plainte du fait qu'il y a de moins en moins de restaurants familiaux. Elle cite l'exemple notamment de Saint-Hubert, où plusieurs restaurants ont été refaits dans les dernières années au détriment de l'aspect familial.
On dirait que je suis mal à l'aise d'aller en famille au Saint-Hubert. Ils ont refait les salamandres. C'est comme un autre niveau. Puis là, je suis comme mal à l'aise d'aller avec les filles qui crient, qui jouent et tout. Puis ça me manque ces moments-là parce que c'était le fun, la salle de jeu. C'est quoi qui est devenu le Saint-Hubert? C'était comme un restaurant familial. Puis là, je trouve que c'est comme rendu pour juste pour le côté bistrot.
Bon, je veux pas nécessairement cibler Saint-Hubert, elle le cible elle-même, mais c'est assez généralisé, du moins comme phénomène de ce que je remarque. Il y a un déclin assez remarquable des restaurants familiaux au Québec, si bien que je me suis posé la question, est-ce que les enfants sont mal vus au restaurant? Et avoir les commentaires sur les réseaux sociaux, la réponse, c'est un oui catégorique. Faut dire que dans le monde de la restauration, c'est pas tant la nourriture qui ramène l'argent, c'est plutôt l'alcool. Donc, un groupe de 8, si c'est deux couples avec deux enfants chacun, les enfants mangent le menu enfant et consomment pas d'alcool, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus payant. Et c'est plusieurs parents me disaient aussi qu'il y a du snobisme, c'est palpable dans l'ambiance au restaurant. Et j'en ai discuté avec la créatrice de contenu pour Maman, Sarah Charron, alias Maman sur mesure. Elle ressent aussi ce phénomène-là.
Comme si notre pièce valait moins un peu que les autres. Je pense vraiment que notre argent vaut autant que les autres, qu'on a notre place dans les restaurants aussi, parce que c'est quand même important de garder en tête, de rendre ça accessible pour les familles, pour qu'on sente qu'on a notre place encore.
Elle dit que c'est quand même important en tant que parent d'avoir une certaine préparation quand tu vas au restaurant avec tes enfants parce que pour les occuper avec des crayons, du coloriage, s'ils sont pas du
des
monde...
Des tablettes.
En dernier recours, semble-t-il, c'est ce qu'on me dit. Et si tes enfants sont pas du pas du monde en général, ça se peut qu'ils soient pas du monde au restaurant. Et c'est recensé beaucoup. Et je regardais sur les réseaux sociaux, il y a un exemple récent d'un restaurant londonien. Oh. C'est dans les derniers jours à peine où le restaurateur a affiché dans son entrée « Dog friendly, child free ». Donc, tu peux amener ton chien, mais pas tes enfants. Et ça fait grand bruit. Et en Corée du Sud, il y a beaucoup de commerces sans enfants. Ça gagne en popularité. Et on parle d'enfants là, de 12 ans et moins.
Mais tu sais, c'est comme les auberges, les bed and breakfast et tout ça. Il y a des enfants, pas d'enfants.
Et tout inclus aussi.
Tout ça, là.
Et je dois avouer, en tant que homme sans enfants...
Oui, qu'est-ce que tu veux avouer?
Je dois faire mon mea culpa dans l'avion. Quand je vois une petite famille et j'ai été assis récemment à côté d'un enfant en avion et j'ai peut-être un petit peu roulé les yeux, je fais mon mea culpa. Hey, mais il était pas du monde. Et sa mère, il était pas... J'ai un moment donné,
c'est sûr que c'est difficile de se sauver d'un avion.
Ouais, exactement. Et sa mère qui était sur son satané téléphone tout le long, je me suis dit, écoute, écraser une gravole dans son jus de pomme, là, ça n'a aucun sens.
Moi, j'en avais un qui me descendait des coups de pied. Là. C'est fatigant, ça. C'est à travers le siège. Ouais. Là. T'es assis, là. Bang! Puis maman va aller retrouver ça...
comique.
Ben, c'est une façon pour l'enfant de s'exprimer parce que le vol est long. Alors, merci, cher ami.
L'essentiel de Paul Arcand. Les grandes entrevues de la semaine.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là,
tout près ici,
très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.